bouge pas. Attends. Non, ça c'est toi. Je vais essayer par là.
Tu l'as entendu ? Il vient de passer.
Il joue à cache-cache, hein.
Rêver des embryons. Une création radiophonique d'Élodie Lélu. C'est un son qui n'existe pas dans la nature. Et pourtant, c'est un son qu'on a longtemps fantasmé. C'est un son qu'on n'aurait jamais dû entendre si on avait laissé la nature faire. C'est un son médical, un son de maternité. On était si heureux de l'entendre qu'on a décidé d'acheter un Doppler fœtal pour pouvoir l'écouter tous les jours et surtout pour ne pas l'oublier.
Il n'y a pas de mystère dans la famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou non plus. Et on a souvent discuté de ça avec ton père. On avait chacun des modèles familiaux bien marqués.
Raconte-nous juste, papa, cette histoire de... Enfin, en tout cas, ce que ta mère raconte sur ta conception.
Ah ben, ma mère a raconté un truc assez extraordinaire. Hein. C'est que... Un soir du 14 juillet, mon père avait dû être impressionné par le défilé. Et du coup, le soir, ils ont fêté le feu d'artifice, bien sûr, très très fort, quoi. Donc, il semblerait que j'étais conçu le soir du 14 juillet. Puis bon, après, moi, je suis pas particulièrement intéressé par les défilés militaires, hein.
Enfin, 14 juillet, c'est aussi le bal. Enfin, c'est pas que militaire, quand même.
Ah ben, oui, c'est sans doute le bal, quoi. Oui, oui, c'est possible.
Mais toi, maman, tu sais où ça s'est fait et quand ça s'est fait ?
Ouais. Mes parents, ils étaient tout jeunes mariés. C'était le premier soir de leur voyage de noces qu'ils passaient à Lourdes, qui est une étrange destination. Pour un voyage.
C'est pas très fun d'aller à Lourdes pour ton voyage de noces.
Ouais, mais on y attend des miracles. Et moi, je fus le miracle parce que je ne devais pas arriver. Papa, comme c'était leur première nuit, avait vraiment averti maman que jamais un enfant ne pouvait surgir d'une première relation sexuelle. Et moi, la petite miraculée, voilà, s'amusait beaucoup de monde quand papa racontait ça, parce qu'il le racontait à moi-même et puis à d'autres gens, les amis de la famille connaissaient l'histoire.
Et alors pour moi aussi, là, enfin en tout cas, il y a pas du tout de mystère sur ma conception, parce que je crois que on connaît même le jour, non ? C'est pas ça ?
Ouais, le 17 juin à 15h.
1981. Et pourquoi 15h ?
Parce que ton père avait assuré sur son agenda cette partie de l'après-midi. On suivait des préceptes tout à fait précis. Des gens qui avaient fait 68, qui commençaient à se poser des questions sur la conception. Et le fait d'avoir une relation sexuelle multiple le jour même de l'ovulation... Ça assurait la venue d'un garçon.
Ah ben bravo.
Voilà, parce que ça a complètement foiré ce truc-là. Hein.
Ah, ben, nous, les informations qu'on avait eues, c'était des informations d'un...
Ben, la gynéco, elle a eu trois filles. Elle a eu trois filles. Elle a voulu faire des garçons.
Ah bon, ben, c'était la même connaissance qu'on avait, alors.
Exactement, partageait les mêmes, bon. La même science.
Je ne sais pas dans quelle mesure ces histoires ont influencé nos vies. Mon père est certain bon vivant, mais ma mère est plutôt anticléricale. Et moi, j'ai jamais vraiment été un garçon manqué. Mais voilà, ces histoires font partie du patrimoine familial et on se les passe de génération en génération. Et maintenant que je partageais avec mon conjoint l'envie de fonder une famille, elle me paraissait plus importante qu'avant.
Comme on voyageait pas mal à l'époque, je me suis mis dans la tête d'avoir un enfant conçu à l'autre bout du monde. Enfin, ça, c'est une histoire qui me plaisait. Une histoire que j'avais envie de raconter.
Moi, j'ai rêvé d'un enfant conçu la nuit du Nouvel An. Pour pas pouvoir dire précisément l'année de sa conception. J'aimais bien ce côté entre deux.
J'ai aussi rêvé d'un enfant conçu dans les eaux internationales. Il y avait ce côté apatride, ce côté citoyen du monde.
Et puis, j'ai rêvé de pas savoir du tout. Je trouvais ça beau, ce mystère. Nous avons rêvé longtemps, bien plus longtemps que la plupart des couples. Assez longtemps pour se dire que quelque chose n'allait pas. Apparemment, nous n'étions pas les seuls retardataires.
Aujourd'hui, on n'en parle pas trop, mais les services de PMA qui vont augmenter, qui vont gonfler, ça va devenir quelque chose d'assez courant. On peut assez vite se rendre compte que ça fait partie du quotidien de beaucoup de gens autour de soi. Et voilà, c'est assez rassurant, on se dit que ça fait partie de l'époque actuelle.
Comment ça s'est passé ?
Très bien, j'ai tout répondu.
Parfait, bah, on va valider. Et puis je vais vous emmener dans la salle d'examen.
On va devoir faire des examens chez les deux membres du couple. Alors, chez monsieur, bah, on va faire un examen qui s'appelle le spermogramme et qui va permettre d'évaluer le nombre de spermatozoïdes, la manière dont ils bougent, donc la mobilité et leur forme. Et puis chez madame, on va faire une prise de sang qui permet de voir différentes choses, entre autres les hormones, et une échographie qui va permettre de voir s'il n'y a pas de problème au niveau de l'utérus et au niveau des ovaires.
Est-ce que je peux connaître votre délai d'abstinence ?
Une semaine.
Parfait. Voilà, donc pour la procédure, vous passez d'abord aux toilettes si vous devez uriner. Ensuite, vous vous lavez les mains. Donc, il y a ici un gant toilette avec du savon. Vous lavez bien vos mains, puis vous lavez le pénis, puis bien rincer. Après, vous effectuez le prélèvement par masturbation dans le dépôt stérile que je vous donne ici. Et quand vous avez terminé, vous l'apportez dans notre bureau qui se trouve là-bas au fond du couloir. Voilà, tout à l'heure.
Le protocole est inscrit ici dans la pièce. Donc on n'a plus qu'à lire et à suivre le protocole. Donc, par contre, c'est vrai qu'après, il faut faire marcher un petit peu l'imagination parce que vous voyez, la salle est étroite et puis bon, on ne peut pas dire que ce soit très attrayant.
Donc l'utérus qui est là, que vous voyez ici, et là on est sur le col, et on va faire des petits mouvements latéraux comme ça pour voir s'il n'y a pas des structures d'endométriose. Donc ça c'est les côtés latéraux de l'utérus, et il n'y a aucune image qui pourrait évoquer une endométriose. On va pouvoir faire l'examen qui suit en échographie 3D pour pouvoir compter le plus précisément possible le nombre de follicules et voir leur taille. Et vous voyez, là, on a donc, en image de synthèse, les follicules de l'ovaire gauche.
Il y a de ça de fascinant avec la PMA, c'est qu'on va voir à l'intérieur du système reproductif, surtout chez la femme. Et donc, on peut voir un peu comment ça se passe. Et puis, après, la science est très avancée, mais c'est toujours étonnant de voir à quel point... On peut faire des choses qui ne seraient pas accessibles il y a encore quelques années.
Un enfant a été conçu tout à fait autrement que cela se fait d'habitude, c'est-à-dire hors du corps de sa mère. Entendons-nous bien, la mère a bien porté l'enfant, mais la fécondation, la conception, a eu lieu à l'extérieur, dans une éprouvette.
Tout va bien et c'est la maman du bébé du siècle qui parle. Le bébé, c'est Mademoiselle Patricia Brown, née dans la nuit du 25 au 26 juillet 1978 à l'hôpital d'Oldham, près de Manchester. Elle pèse près de 2,7 kg à la naissance et elle dort sans aucun doute paisiblement ce soir. Et pourtant, Dieu sait si dans le monde entier, aujourd'hui, cette naissance a fait du bruit. C'est la première fois, en effet, qu'une femme accouche d'un bébé qui a été conçu dans un laboratoire.
Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de France ce soir. 43 heures après sa naissance, vous savez...
Même si c'était pas vraiment comme ça que j'avais imaginé la procréation de mon futur enfant, j'étais assez grisée par tous ces exploits scientifiques. Et pour moi, ça n'inaugurait que des succès.
Après, avec la réalité des traitements, je pense que tous les fantasmes sont un peu tombés à l'eau.
Voilà, donc ici, on a réalisé une coloration du sperme pour pouvoir observer la forme des spermatozoïdes. On voit là des spermatozoïdes anormaux. Nous en avons un là avec deux têtes et un flagelle. On en observe un autre ici avec une tête trop allongé, et un peu plus loin, là, sur la gauche, c'est un spermatozoïde avec deux flagelles.
On dit que les spermatozoïdes ne sont pas assez nombreux, ils n'avancent pas, ils sont trop lents, ils ne vont pas dans la bonne direction. C'est tous des termes qui dévaluent le sperme, mais probablement par extension aussi l'homme qui se sent vraiment dévalorisé par rapport à son diagnostic.
L'insuffisance ovarienne, c'est un ovaire qui dysfonctionne, mais qui est parfois capable...
L'anomalie de fabrication, soit en excès, soit en insuffisant.
Les malformations utérines, séquelles d'intervention et séquelles de
processus. Les bouchées, en termes médicaux, ça s'appelle un hydrosalpinx.
Entraînant une production nulle de spermatozoïdes ou une production très réduite.
Nulle. Dysfonctionnelle. Anormale. Malformée. Tous ces mots ont commencé à prendre beaucoup de place dans nos têtes. Quand on a diagnostiqué à mon mari le syndrome des spermatozoïdes paresseux, d'un coup, je l'ai trouvé plus mou. Et quand on m'a annoncé que ma réserve ovarienne était altérée, je me suis sentie vieille, presque périmée.
Thank you.
Bah, mon identité, ça l'a changé parce que je suis devenu... je suis passé dans la case des personnes infertiles, on va dire, en tout cas qui ont des difficultés à se reproduire. Ça a amoindri la virilité, ça a amoindri son estime de soi. Après, je pense qu'il y a une certaine fatalité là-dedans et il faut prendre la nouvelle et puis avancer, voir quelles sont les solutions.
Donc, qu'est-ce que je vous propose comme traitement ? Eh bien, c'est d'aider les spermatozoïdes de monsieur à rencontrer votre ovocyte, madame. Donc, ça s'appelle une insémination intra-utérine ou insémination artificielle. C'est une technique qui va permettre de rapprocher les spermatozoïdes de l'œuf. Donc, on va déposer le sperme préparé dans l'utérus de manière à ce qu'il soit un petit peu plus près de l'œuf et donc du lieu où la fécondation, la rencontre de l'œuf et du spermatozoïde doit se passer. Et ça, ça devrait augmenter les chances de grossesse. Alors, si ça ne fonctionne pas, après un certain nombre de tentatives, ben, on proposera de passer à une autre technique qui s'appelle la fécondation in vitro, qu'on appelait précédemment les bébés éprouvettes.
Quand j'ai compris que j'allais devoir me bourrer d'hormones, aller tous les deux jours à l'hôpital et puis me faire opérer, c'est vrai que ça a été un gros coup de massue. Et en même temps, j'ai très vite accepté de mettre mon corps à l'épreuve. Sans doute parce que dans l'inconscient collectif, c'est vrai qu'on associe d'emblée la maternité à la douleur. Donc quelque part, je crois que je trouvais ça normal de souffrir pour avoir un enfant.
C'est la mère qui crie comme ça ?
Oui, c'est la mère qui crie comme ça, là.
Bon, bah, elle va accoucher, là.
Bah non, mais là, je sais pas, le SAMU va pas tarder.
Ah non, on n'attend pas, elle est en train de pousser, là, madame. Le bébé va sortir, il faut quelqu'un pour l'accueillir, là, je vais vous guider.
Non, moi, je...
On n'attend pas, vous allez le faire maintenant.
Allez, courage.
C'est un monstre.
La manière dont il a été conçu, c'est pas sa faute.
C'est ma faute, je sais.
Non, pas du tout.
Je le déteste tellement.
Tu vas être maman, il faut que tu t'y fasses parce que je comprends bien. Encore. Plus fort. Voilà. Allez, encore. C'est bien.
C'est pas trop ça.
Vous savez, il commence à sortir.
Renfoncez-le et ouvrez-moi.
Pardon, infirmière, c'est vraiment trop tard.
Absolument. Je t'ai dit que je ne voulais pas vivre ça.
Mais
c'est rien. C'est trop dur.
T'as pas le choix.
T'as qu'à prendre ma place, connard.
Elle le pense pas vraiment.
Si, je le pense.
C'est rien, on m'a traité de bien pire. Allez, pousse, bordel, pousse.
C'est maintenant.
C'est maintenant.
Ah, oui, c'est maintenant.
Plus fort, pousse. Si tu peux, pousse.
Arrête de pousser, arrête de pousser. Respire, respire. Attention.
Avant de commencer, lavez-vous soigneusement les mains. Enlevez le capuchon du stylo. Tournez le bouton d'injection dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'écran affiche la dose de 250. Retirez le protecteur externe et interne de l'aiguille. Auto-administration. Avec un coton imbibé d'alcool, désinfectez la partie choisie de l'abdomen. Insérez l'aiguille de la seringue. Appuyez doucement sur le piston pour introduire progressivement le contenu de la seringue. Retirez l'aiguille lentement. Enfin, jetez la seringue dans une poubelle spéciale.
On a commencé les injections d'hormones pour que je fasse le maximum de possible. Et mon ventre est devenu énorme. Et c'est vrai que j'avais un peu l'impression d'être une poule pondeuse shootée aux stéroïdes.
Moi, je voulais faire les piqûres. Je voulais les faire parce que c'était finalement le seul acte que l'homme pouvait faire pour participer à la PMA. Outre de donner son sperme, l'homme, il ne peut rien faire d'autre. C'est triste à dire, mais les piqûres remplaçaient l'acte physique. Puis ça donnait lieu aussi à des choses un peu marrantes, puisqu'on a même fait des piqûres en parallèle d'un mariage, dans une voiture, dans le noir, tout ça. C'est quelque chose qui aurait pu se faire en acte sexuel. Bah là, voilà, nous, on a fait des piqûres. Ça nous fait un petit souvenir, comme ça, de cette époque.
Donc on est bientôt arrivés, vous allez sentir peut-être un peu de fraîcheur.
Mm-hmm.
Mais on a une couverture pour vous réchauffer après dans la salle. Et voilà. Donc on va vous installer. Donc en fait, on va vous demander de passer sur la table qui se trouve à côté. On va vous aider.
Gardez bien le drap sur vous.
Voilà, gardez le drap voilà. Sur vous.
On va décrafer un petit peu la chemise. Bien soulever les fesses.
Voilà, très bien. Je vais mettre un petit coussin sous votre tête. Si je...
Il est là. Alors, prendre les fesses bien au bord.
Donc maintenant, je vais en fait installer les éléments de surveillance pour l'intervention. Donc, je vous installe le brassard, attention, de ce côté. Voilà, madame. Voilà.
À tout à l'heure.
Des beaux rêves. Tu pourrais juste tourner un peu l'écran. Je vois le verre à droite. Donc je passe l'aiguille, je pique par le vagin et je passe dans le premier follicule. Et donc là, j'aspire. Donc le follicule se vide. Donc le tube est bien rempli. Et je te le passe. Je rince. Donc le follicule se remplit de liquide. Et j'aspire.
Quand on va voir les images des follicules et qui grandissent, le nombre qu'il y a, et quand on se dit, bah tiens, en réalité, il y en a si peu... Et avec toutes ces hormones, on essaye d'en avoir beaucoup. Là, on se dit, tiens, c'est un peu... On en fait un peu un animal de laboratoire.
Oui. Je n'observe pas l'ovule, non. Oui. On le voit presque à l'œil nu. Je dis oui. On l'a.
T'en as combien pour les mamans?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 5 plus 6, ça fait 11 ovocytes.
C'est vrai qu'après une ponction, t'as un petit peu l'impression d'avoir oublié quelque chose à l'hôpital. Un peu de toi et de ton homme. Et c'est étrange de se dire que dans ce laboratoire, peut-être un embryon est en train de commencer à se développer, mais loin de ton ventre. Loin de toi, en fait. C'est après ma première ponction que j'ai commencé à faire des rêves étranges. J'imaginais l'incubateur dans lequel se trouvent nos embryons qui tombaient en panne et nos embryons qui se mettaient à grelotter de froid. Je visualisais aussi le laboratoire avec plein de petites cellules qui se mettaient à proliférer un peu partout. Donc c'est vrai que toutes ces images médicales, elles ont commencé à coloniser mes rêves. Le moment tant attendu est arrivé. Un de nos embryons était arrivé à maturité et pouvait donc m'être transféré.
Donc maintenant, on va passer en écho abdominal et sous contrôle échographique, donc on va passer le petit cathéter et puis mettre l'embryon. Tu vois mon cathéter là, le petit point blanc. Donc là, je mets le guide. Voilà, parfait. Ici. Hop. Et là maintenant, Je pousse et tu vas... C'est le splouch, comme on dit. Hop, voilà. Ouais, le petit nuage ou le... Moi, je dis le splouch, qui est la petite goutte, en fait, parce que les embryons, on ne les voit pas.
Vous voulez une copie d'image, madame? Oui, je veux bien. Merci.
On a imprimé et affiché la petite image qu'on peut obtenir au moment où l'embryon fécondé est introduit dans le ventre de la maman. On le garde parce qu'il y a un petit éclair comme ça sur l'image qu'on identifie très bien.
Attends encore quelques minutes, qu'on vérifie que tout est bien.
C'est vraiment une image forte. C'est un moment créé par le processus de PMA.
Voilà.
Et le fait de le voir comme ça...
Voilà, on croise les doigts.
On le voit, donc on y croit.
C'est Patricia de la PMA. Bon, vous allez être déçu, c'est négatif. Mais vous pouvez vous réinscrire pour un prochain cycle.
Le premier échec de FIV, ça a vraiment été très très dur. En fait, je l'ai vécu comme une trahison de la médecine qui m'avait fait rêver et qui me lâchait comme ça, du jour au lendemain.
On s'aperçoit assez vite que les équipes médicales ont une maîtrise qui est parcellaire du processus, quoi. Ça a beau être très avancé dans au niveau de la PMA, et si ça ne fonctionne pas, ils ne peuvent pas vraiment dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et qu'il y a encore toute une partie qui est laissée au corps humain et à la nature, et que le processus naturel, il a encore une très très grande place dans tout ce système.
Je vous souhaite à vous tous et toutes, à votre famille et amis, la plus cordiale des bienvenues. Célébrer son mariage est dans la vie de chacun d'entre nous un moment important, chargé d'émotions. Oui, le mariage est une aventure du fait que nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Aucun jour ne ressemblant à l'autre, et que l'amour, l'un pour l'autre, est quelque chose de facile certains jours, mais beaucoup plus difficile à d'autres moments. Et puis, il y a l'enfant qui va arriver. Alors chez vous, c'est déjà fait, Éline est déjà là. La voix derrière, là, c'est déjà fait. Hein? Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que d'accueillir des enfants issus de votre union, signe de votre amour. Les enfants, ben, vous les accompagnerez, ils grandiront. Et un jour, comme vous, ils feront comme vous, ils partiront. Mais vous direz, ça, on a le temps de voir. Méfiez-vous, ça passe vite. Bonne route, beaucoup de joie et de bonheur. Tels sont mes souhaits et sûrement ceux de tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui vous entourent.
Bon, c'est vrai qu'on a un peu évité de fréquenter nos amis qui avaient des enfants ou qui étaient en train d'en avoir, parce que c'était une image difficile à affronter. On commence à avoir un certain âge, on est ensemble depuis un moment, on est mariés, et on n'a pas d'enfants. Voilà, ça soulève quelques questions. Et comme on ne cadrait pas socialement dans ce schéma, voilà, c'est vrai qu'inconsciemment, je pense qu'on a évité toutes ces relations-là en attendant d'avoir des enfants.
J'ai repris les traitements comme une marathonienne. Et c'est vrai que la répétition des échographies, ces images qui étaient censées tout montrer et qui finissaient par ne plus rien montrer du tout, ça a commencé à me peser. J'avais l'impression d'être réduite à l'image de mon utérus, en noir et blanc et et en deux dimensions.
Bah, disons qu'après plusieurs tentatives, ça finit par nous oppresser, toutes ces images, tout ce parcours médical. Puis du coup, après, on a du mal à se projeter, quoi.
C'est Patricia de la PMA. Le traitement ne répond pas bien, donc vous allez passer à 350 de Purigon. Vous allez augmenter les doses à 450 et on se revoit demain pour une nouvelle prise de sang.
Mon corps a commencé à se remplir d'eau. Ce que les médecins appelaient une fuite de plasma. Je risquais la phlébite, la thrombose, l'embolie pulmonaire. On m'a demandé de faire une pause de plusieurs mois.
Quand t'arrêtes les traitements, c'est sûr, tu abandonnes ton rêve d'enfant. Mais quelque part, tu vas sortir de cet univers médicalisé, on va sortir tous ces médecins, tous ces traitements, et on va pouvoir se retrouver une intimité, on va pouvoir se reconstruire en tant que couple.
Tu retrouves aussi ton corps, à toi, sans hormones, sans piqûres, sans ponctions. C'est comme si tu devais réapprendre à connaître ce corps qui était censé donner la vie, mais qui pendant les traitements est devenu un ennemi.
Je commence à sentir une détente.
Dans quelle partie du corps tu sens une détente ?
Plutôt dans les jambes, en fait. Je les sens très lourdes.
Bien, ça. Tu peux étendre cette sensation à l'ensemble du corps en remontant vers ton bassin. Et puis tu porte vraiment ton attention sur ton ventre. Et on va faire un petit voyage. Ok. Et nous voilà à l'entrée du ventre. Et il y a une porte. Et je frappe à la porte. Toc, toc, toc. La porte s'entrouvre. Et tu es là. Et tu m'invites à entrer dans la pièce. Où il fait sombre. Il fait tout noir. Et puis, je te demande si je peux allumer la lumière. Et j'allume la lumière. Un peu comme si apparaît alors une petite flamme, comme un feu de cheminée. Tu peux entendre le feu qui crépite. Regardez les flammes qui réchauffent la pièce. Qui réchauffe ton ventre. C'est là où tu es toute proche de toi, de ton corps, de ton intérieur. C'est là où tu te rends disponible. pour le projet, pour ton projet bébé.
Pendant cette pause, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher d'autres images. Des images qui me parleraient autrement de cette envie d'enfant.
Dans la tribu des Himba, en Namibie, la date de naissance d'un enfant est fixée non pas au moment de sa venue au monde, ni à celui de sa conception, mais au jour où l'enfant est pensé dans l'esprit de sa mère. Alors elle se rend dans la forêt. Elle s'assoit sous un arbre et elle écoute. Jusqu'à ce qu'elle finisse par entendre la chanson de l'enfant. Elle revient alors au village et apprend cette chanson au père de son futur enfant. Tous les deux font l'amour en chantant, et lorsque l'enfant naîtra, c'est avec cette musique qu'on le bercera.
Alors, j'ai cherché ma musique à moi.
J'aspire. Je rince encore une fois.
Je ne suis toujours pas tombée enceinte. Mais pour la première fois, on a obtenu plusieurs embryons. Si bien qu'on a pu en congeler pour me les faire transférer plus tard. Là, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à nous.
Un homme vient d'être retrouvé enfoui dans les glaces depuis 65 ans.
Après de réchauffement progressif, le docteur Barkov et moi-même avons constaté une reprise des mouvements cardiaques.
Avez-vous déjà entendu parler de cryogénisation ?
Je pensais qu'il n'y avait rien après la mort.
Vous êtes de retour à la vie, Marc.
Vous pouvez vous voir ? Sentez-vous vos membres ?
Après 120 ans d'hibernation, nous devions nous réveiller dans un nouveau siècle, une nouvelle planète.
Ben moi, je suis amateur de science-fiction, donc la cryogénisation, ça faisait partie de mon imaginaire déjà. Mais la cryogénisation en PMA, c'est devenu vraiment du concret. Se dire qu'on peut arrêter la vie à un moment et qu'elle puisse reprendre quelques années plus tard, c'est quelque chose d'assez fou. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir pu vivre cette expérience.
Voilà, on est dans la cuve C8, canister 7, gobelet supérieur, parce qu'on y en a un en dessous, pisotube turquoise, et le jonc de la paille est rouge. Bon, c'est quand même mettre énormément d'embryons par tourie, par banque d'embryons, comme on dit, puisque on sait au moins mettre pour 180 patientes. Une moyenne de 5 pailles par patiente, ça fait donc 900 pailles. C'est plusieurs équipes de foot, hein.
Même si tes embryons sont congelés à moins 196 degrés, assez vite, tu as envie de les nommer. Alors pour nous, ça a été des noms de glace. Ben & Jerry, Michel Augustin, Mr. Freeze. Mais voilà, on trouvait ça quand même mieux que de dire la paillette 3578 9F7. Il y avait quelque chose de plus intime qui nous liait à eux.
On a transféré plusieurs embryons sans succès. Alors, quand le dernier est arrivé, on a un petit peu hésité.
Je crois que, quelque part, je l'aurais bien laissé toute la vie au congélateur. Parce qu'au moins, il y avait quelque chose de nous deux qui existait quelque part. Mais voilà, on a fini par le faire transférer.
Il fait 70 mm de la tête aux fesses, donc quasiment 10 cm avec les jambes.
Quand même, hein.
Comme vous voyez, il bouge, il a une belle mobilité. On va avoir une activité cardiaque ici. Donc la fréquence cardiaque est bien régulière. Il y a une bonne contractilité myocardique. Les deux artères au niveau du cordon ombilical. Le rythme qui est bien régulier, pas de trouble du rythme. Et ça, c'est la clarté nucale.
Quel est le début de la vie, en fait? Est-ce que le début de la vie, c'est l'embryon... Est-ce que c'est l'embryon fécondé? Est-ce que c'est le moment où cet ovule fécondé s'attache au corps de la maman et commence à être nourri par la maman? Est-ce que c'est l'accouchement? Voilà, ça pose des questions où beaucoup de gens vont avoir des avis différents. Moi, pour ma part, en tout cas, mon enfant qui justement est passé par le congélateur pendant, je pense, 2 ans, quelque chose comme ça, pour moi, il était en vie, il a existé à partir du moment où il était fécondé et qu'il était justement dans ce tube, dans le frigo. Je ne sais pas ce que ces 2 ans dans le frigo auront comme influence sur sa vie entière, peut-être rien du tout, mais ses cellules, à mon avis, s'en souviennent. En tout cas, cette première cellule, elle s'en souviendra.
Notre enfant est arrivé plus vite que prévu. J'ai juste eu le temps de prendre mon enregistreur et de filer à la maternité.
Je sais pas trop comment je lui parlerai de tout ça. J'ai pas envie que mon enfant ait l'impression d'avoir été issu d'un processus difficile. J'aimerais bien qu'il ait l'impression d'avoir été attendu et chéri. En tout cas, qu'il a été fait dans le bonheur.
J'ai eu besoin d'aller retrouver ses mains. Ses mains de biologiste qui avaient permis la procréation de mon fils. Est-ce qu'elle aussi l'avait fait dans le bonheur ?
Tu aimes bien faire les interjections, là, les injections intracytoplasmiques. C'est même pas
dit. Intracytoplasmique.
Cytoplasmique.
C'est reposant, c'est zénifiant. quand tout fonctionne bien. Et quand l'ambiance dans le labo est détendue, comme ça l'est souvent, il faut être patient aussi. Donc là, j'installe les pipettes pour la micro-injection. C'est toujours... c'est un peu une valse. Hein. Donc c'est toujours le même mouvement. On prend les spermatozoïdes dans une bouche, on les observe, on les fait un petit peu tourner dans tous les sens pour voir si tous les profils sont jolis. Et on choisit le plus élégant.
Ils n'ont pas l'air faciles à attraper quand même. Hein.
Voilà ça. C'est des hommes.
Pas forcément.
Je m'en doutais. On te demande pas de commentaires, Déborah, dès qu'on renisse des petites bêtes. Il y en a un là qui est rentré là, de manière très discrète dans ma pipette, alors que je ne lui ai pas demandé de venir. Donc je le remballe.
Il s'accroche à toi, hein.
Il est terrible, hein. Hop.
Tu passes la frontière.
Pousse-toi là que je me mette. Eh bien non, c'est moi qui choisis. Qui sera l'heureux élu. Une petite aspiration. Et je dépose le spermatozoïde.
Et voilà.
Et
ce sera lui.
Et c'est terminé. Le reste, le travail n'est pas fini, évidemment. Après, c'est un travail intime entre deux qui se fera de nouveau dans l'incubateur toute la nuit. Et c'est pas parce qu'on a mis un spermatozoïde dans l'ovule que l'ovule va être fécondé à 100%.
Qui communique quoi ?
Voilà, tout à fait.
Il buvait dans le même verre. Toujours sans se quitter des yeux, il faisait la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, il souriait dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait.
D'après l'histoire de Noah, Nina et Aiko. Une production Cinéqueue. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique. Avec les voix de Béa et Jean-Claude Lélu, de Candice Autin, de Muriel van den Abele, d'Anne van Steenbrugge, de Barbara van Elst, d'Isabelle Govart, d'Isabelle Dumont, de Benoît Leporcy. Prise de son et montage, Élodie Lélu, et Mathias Mora. Mixage, Nils Faute, de Piste Rouge. Merci au Chirec, à Romain Imbert, à Laurence van Groenbroek, au Magazine de la Santé, au CHR d'Orléans, à Nicolas François, Aurélia Balboni, Sonia Ringo, Bastien Hidalgo, Carmelo Iannuzzo, Diana Dolce, et tous ceux qui, de loin ou de près, ont soutenu ce projet.